6h03, jeudi 18 octobre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. C'est pas chaud ce matin. Et au cours des dernières heures, des flocons de neige ont été vus dans différents coins du Québec. Et d'ailleurs, même à Montréal, cette nuit, je vous donne un exemple, sur Saint-Laurent, des auditeurs, des auditrices qui me parlent également de flocons métro Côte-Vertu, au coin de Décaré-Côte-Vertu. Quelques flocons, mais surtout dans le secteur plus au nord, on pense Saint-Colomban, on peut aller également du côté de Rawdon. Et je vais reprendre l'expression, je pense, d'une auditrice qui dit « Je constate un drap blanc sur mon barbecue ». Ça résume assez bien. Puis des auditeurs qui m'ont envoyé des photos, évidemment de différentes régions du Québec, je pense à la Beauce, mais ça veut dire qu'on a notre première manifestation un peu de la neige. Et hier, on sait qu'il y a eu un accident qui a impliqué trois poids lourds sur la route 169 dans la réserve des Laurentides. Et on pense que, évidemment, la neige, la chaussée glissante pourrait être à l'origine de cet accident. Alors, continuez à me donner un peu le pouls du terrain, à me dire comment ça se passe dans votre coin. Si déjà, avec le froid, les premiers flocons. Évidemment, dans les Laurentides, c'est sûr que on a un peu même de neige au sol. Des gens qui m'ont envoyé des photos de véhicules, c'est couvert un peu, puis bon. Alors, pour Montréal comme tel, alternance de soleil et de nuages. Ce matin, c'est froid. On est à 0 degré. Ciel généralement nuageux. Ce sera venteux, 30 à 50 km heure. Maximum plus 4 pour aujourd'hui. Ce soir, ça se couvre et c'est pas chaud, là. Ce soir, c'est 0 degré. Par contre, température en hausse pour atteindre 7 au cours de la nuit. Mais il en demeure pas moins qu'il y aura quand même du gel par endroit. Alors, il faut le noter. Demain, vendredi, on prévoit un dégagement avec des vents de 30 à 60 km heure, maximum autour de 14 degrés. On prévoit dans la nuit de vendredi à samedi 40 % de probabilité d'averse, un minimum de 10. Et l'aperçu pour le week-end. Samedi, d'abord, assez nuageux, venteux, 13 degrés, avec quand même probabilité d'averse assez élevée. Durant la nuit, ça va être froid. Là, on parle de 0 degré. Dimanche, on prévoit du temps nuageux, venteux, avec un maximum de 5 degrés. Et pour lundi, c'est du soleil qui est prévu pour le retour au travail, avec un maximum de 6 degrés. Je vais commencer ce matin par la présentation officielle aujourd'hui du nouveau gouvernement, le Conseil des ministres de François Legault. Alors, on connaît le principe, représentation régionale, mais surtout la tradition se poursuit, c'est-à-dire un conseil des ministres paritaire ou, comme dit Bernard, dans la zone paritaire. Donc, on devrait être pas loin du 50-50 au terme de l'exercice. Alors, c'est sûr que toutes les rumeurs circulent. Il y a comme des incontournables. Si vous avez, par exemple, ce qu'on appelle l'aile économique de la CAQ, on pense évidemment à Éric Girard, qui est issu de la Banque nationale. On pense également à Christian Dubé, qui arrive de la Caisse de dépôt. Pierre Fitzgibbons, pardon, qui était dans le milieu des affaires. Donc, ces gens-là vont occuper les postes clés. On voit M. Dubé au Conseil du Trésor, M. Girard aux finances. Pour ce qui est des autres ministères, c'est Mme Mécan. Ça a l'air que M. Legault n'avait pas le choix, parce que quand Gertrude Bourdon a levé les feutres, il s'est tourné vers elle, puis il aurait donc pris comme une espèce d'engagement de la nommer. Il y a Denis Lessard qui dit ce matin que Christian Dubé était pas mal intéressé, mais que finalement, on était presque devant un fait accompli là, avec Mme Mécan. Moi, j'aurais aimé quelqu'un d'autre que du réseau de la santé, mais bon. Donc, ce sera ça aujourd'hui. Sonia Lebel à la justice, c'est pas une grande surprise. Simon Jolin Barrette, lui, semble-t-il, va devenir le leader parlementaire. Et va s'occuper également du dossier de l'immigration. Alors, on sait que la CAQ a un objectif de réduire les niveaux d'immigration. Et chose étonnante, c'est Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, mais également, et je l'ai entendu aussi hier, là, va devenir ministre de la Sécurité publique. Donc, tout indique que Yann Lafrenière, qui était candidat vedette, pressenti pour le poste, lui, n'accède pas au cabinet. Et Bonnardel, François Bonnardel, qui s'en va au transport, selon certaines rumeurs. Nathalie Roy, responsable de la culture. Donc, la santé, il y a le docteur Carman qui va être ministre délégué à la santé et services sociaux, mais avec une espèce d'emphase ou de priorité sur la petite enfance et tout ce qui entoure le dépistage des problèmes chez les enfants dès l'âge de 4 ans. Mais comme je vous dis, des fois, il y a des surprises, il peut y avoir des changements de dernière minute. Donc, ça semble en tout cas être le portrait pour aujourd'hui. Et ça va se faire en début d'après-midi. Faisons un peu le bilan du jour 1 de la légalisation du cannabis. Il y a quelques constats qu'on peut faire. D'abord, c'est sûr que première journée, c'est l'engouement, autant devant les quelques rares magasins, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, c'est une douzaine, que la fréquentation en ligne. Premier constat, les ventes ont explosé, c'est un peu normal, et je ne dirais pas qu'on est en rupture de stock, mais là, je disais ce matin que toutes les provinces font de la pression sur les différents fournisseurs pour être capables de devancer des livraisons. Et donc, et là, les fournisseurs disent, on peut peut-être dans certains cas, mais en même temps, c'est très difficile d'évaluer les habitudes d'achat des consommateurs quand c'est un produit qui est maintenant légal. Donc, on a des études sur le marché noir, mais ça demeure un peu compliqué. Deuxièmement, donc, ça se peut qu'il y ait des problèmes d'approvisionnement, que ce que vous cherchez soit plus difficile à trouver. Primo. Deuxièmement, vous avez vu la file à Montréal de gens qui attendaient. Moi, ça me dépasse. Et là, quand vous avez des foules, vous avez des comportements débiles qui s'en suivent. Comme par exemple à Québec, quelqu'un qui essaie de couper la ligne, qui se fait avertir, qui se retourne de bord, crache sur la personne. Puis là, il y a une bataille qui éclate, du tiraillage. Hier, à la fermeture à Montréal, les gens qui n'étaient pas servis étaient furieux. On a demandé à la police de venir. Après, c'est parti des débordements des premières journées. Et aussi, brèche dans la sécurité sur le site de la Société québécoise de cannabis. Ça n'a pas duré longtemps, mais semble-t-il que ça a permis aux gens de voir un nombre assez élevé d'identités de clients qui avaient transigé en ligne pour la première journée. Alors, ces identités ont été révélées et même reconnues, mais je dois dire que ça a été de courte durée. Donc, là, on admet qu'il y a eu un problème, là, une espèce de raté dans la sécurité informatique, mais au moins, l'affaire a été colmatée rapidement. Mais c'est sûr que l'élément qui frappe, c'est la forte demande. On pouvait l'anticiper, mais en ligne, là, on parle quand même à travers le Canada. Puis l'autre réalité, c'est qu'au Canada, là, par exemple, en Ontario, il n'y avait que de la vente en ligne qui était possible. Les succursales n'étaient pas encore ouvertes. Alors, quand le réseau canadien va se déployer au maximum, ça veut dire qu'on s'attend à ce que les ventes continuent comme ça d'augmenter. Alors, et l'autre aspect, il y a des gens qui m'ont écrit là-dessus, deux, trois autres considérations. Il y a beaucoup de qualificatifs qui sont associés au cannabis dans les produits vendus donc par la société québécoise, des propriétés relaxantes, des propriétés sur la performance même dans certains cas, sur le mode de vie. Et il y a des gens de santé publique qui commentent ce matin en disant « Trouve ça sur la ligne, là. Est-ce qu'on est en train d'en faire la promotion et d'associer une amélioration de la qualité de la vie au produit? » En principe, on ne doit pas faire ça. On interdit toute forme de marketing, de publicité. On a créé un environnement en drap, justement, pour pas que ça soit trop festif. Et là, il y a des gens de santé publique qui disent, c'est vrai que c'est présenté presque comme un médicament, là, quand vous regardez l'emballage et tout ça. Mais pourquoi il y a cette description qui est faite? Puis je parlais à des gens qui en ont acheté en ligne, puis qui me disaient, quand je regarde le produit que j'ai acheté, voici le descriptif. Tu sais, c'est pas straight, là. C'est pas une description, disons, technique. On est plutôt dans une forme de marketing. Ça peut déranger. Puis il y a évidemment les gens qui m'écrivent, pour se plaindre de l'odeur. Parce qu'évidemment, depuis que c'est légal, et qu'à Montréal, je comprends que ça varie, mais les gens peuvent fumer un peu partout, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'odeur. Puis là, je dis, et la mairesse Plante a raison, là, c'est un appel au civisme. Je peux comprendre que les consommateurs, parce que je reçois des courriels, là, des fois haineux, de bêtises de consommateurs, parce que tu oses soulever des questions concernant cette industrie-là, puis la façon dont la loi s'applique. Puis on sait qu'il y a des batailles qui s'en viennent devant les tribunaux. Le National Post fait la liste ce matin de 7 items potentiellement contestables devant les tribunaux. que ce soit des arrestations pour conduite avec faculté affaiblie, c'est sûr qu'il va y avoir des causes types, que ce soit sur le fait au Québec, par exemple, qu'on consomme seulement des produits vendus par l'État, donc interdiction de cultiver des plants à domicile, contrairement à ce que la loi fédérale promet, c'est sûr qu'il va y avoir des contestations. Si François Legault ramène ça à 21 ans, il va y avoir des contestations. Il va y avoir aussi des contestations sur l'interdiction dans les lieux publics. Donc, là, je comprends que c'est la cohabitation. Et vous allez dire, oui, mais les gens fumaient pareil avant. Sauf que les gens se sentent maintenant pas mal plus libres de fumer un joint sur le coin d'une rue qu'avant. C'est ça, quand on légalise aussi. Et il y a des gens qui m'écrivent, qui disent, ça pue, j'aime pas ça, c'est dégueulasse. Pourquoi est-ce qu'on permet ça? Alors, là, avant que vous sautiez sur vos claviers pour m'envoyer vos messages de bêtises, peut-être juste faire preuve d'un peu de civisme dans les comportements que vous adoptez depuis donc hier avec la légalisation du cannabis. 6h15, Marc, un petit rappel des points chauds. Bon, parlons de nos tueurs. Si vous voulez, ce matin, il y a comme un trio qui retient l'attention. Stéphane Gagné, on en a parlé avec Monique tantôt, donc qui obtient la permission pour des sorties escortées, là, des sorties encadrées de prison. Et dans le cas de Gagné, c'est toute une affaire, là. Rappelons que c'était un tueur à gages qu'il a dénoncé Maurice Boucher. C'était le tueur de Maurice Boucher qui avait été embauché, donc, à Kiavette. On avait donné des contrats pour s'en prendre à des gardiens de prison. Objectif à l'époque, déstabiliser le système, pas en même temps, assurer la mainmise de Mom Boucher sur l'organisation. Alors, c'est sûr que c'est quelqu'un dont la tête est mise à prix. On a souvent l'impression qu'une fois qu'ils ont témoigné, on est moins intéressé à les pourchasser pour les faire taire, puis en fait, pour régler leur cas. C'est vrai, puis c'est plus ou moins vrai. Et c'est sûr que lui, là, t'as beau le protéger, mais il est constamment, donc, en danger. Dans le cas de Bernardo, si vous voulez mon avis, là, ce gars-là sortira jamais de prison, et c'est une maudite bonne nouvelle. Quand vous regardez les gestes posés, des viols à répétition, des séquestrations, des adolescentes qui ont subi l'horreur, et on sait que Carla Homolka a été condamnée, elle, à l'époque, à 12 ans de prison. Puis je veux se rappeler que... pourquoi? Parce qu'elle a collaboré avec la justice contre Bernardo. Puis c'est après cette entente qu'on a découvert des éléments de preuve, notamment des enregistrements vidéo, qui aurait permis de faire condamner Bernardo sans la collaboration d'Homolka. Et Homolka sera probablement elle-même encore en prison aujourd'hui, n'eût été de ça. Et il y a Alexandre Bissonnette, la sentence qui est reportée au mois de janvier. Et dans son cas, ce qu'il faut quand même voir, là, c'est qu'il pourrait se retrouver avec 6 peines d'emprisonnement cumulatives, donc sans possibilité de libération avant 150 ans. Est-ce qu'on va appliquer la peine aussi sévère? C'est ce qu'on verra. D'autre part, dans la presse ce matin, on raconte l'histoire, en fait, de l'attaque aérienne contre Hydro-Québec. Celui qu'on a appelé le fameux pilote des vedettes, qui avait un litige perso, là, Normand Dubé, avec Hydro-Québec, là, semble-t-il que c'est une histoire de servitude, et qui avait donc attaqué les pylônes de Hydro-Québec. On n'a pas le droit, il y a une ordonnance de la Cour, puis c'est très sérieux, là. Tu ne peux pas donner de détails sur exactement ce qu'il a fait, comment il s'est pris pour s'en prendre donc à Hydro-Québec, parce qu'on ne veut pas donner aux autres des idées. Mais le 4 décembre 2014, il a comme ça coupé 2 lignes d'alimentation électrique en provenance de la baie de James. Et le responsable de Hydro-Québec qui a suivi l'affaire a dit hier que nous sommes passés très près du pire scénario, c'est-à-dire une panne totale qui aurait transformé le Québec en trou noir complètement. Les dommages causés à l'époque ont atteint 29 millions. Et pour reprendre l'expression des gens d'Hydro-Québec, la colonne vertébrale du réseau a été touchée. Et là, je rappelle que Dubé, donc pilote d'avion, d'hélicoptère, lui était vraiment en colère. Il y avait un litige avec Hydro-Québec, puis il a décidé cette journée-là de se venger puis d'attaquer le réseau de Hydro-Québec. On sait qu'il a survolé des lignes à Mirabel, à Wentworth, Brownsburg, Chatham. Et en après-midi, il y a un court-circuit qui s'est déclaré donc sur 2 lignes qui acheminent le courant des barrages du nord vers le sud. Et il y a eu donc parce qu'il y a des opérations de délestage automatique, là, 120 000 personnes qui ont été privées de courant. Mais en résumé, Hydro-Québec dit on est passé finalement tout près. Je reviens sur le cas du journaliste Jamal Khashoggi, qui, vous le savez, a été exécuté. On n'a pas retrouvé le corps, mais là, tout indique. Et l'enquête continue, mais il y a des éléments ce matin qui montrent des... Quand je dis des éléments, je parle de preuves audio qui ont été obtenues par les enquêteurs turcs, qui montrent que Jamal Khashoggi est entré dans le consulat d'Arabie Saoudite en Turquie et qu'il allait donc chercher des documents parce qu'il se préparait à se marier. On dit également que sa conjointe était à l'extérieur, l'attendait, donc elle ne l'a jamais revue, mais qu'une partie des enregistrements, et là ça reste à démontrer, aurait été transférée d'une montre Apple vers elle. Donc elle aurait des fichiers audio de l'arrestation, de l'interrogatoire et de la mort de Jamal Khashoggi. Et ce que les enquêteurs, semble-t-il, ont déterminé, c'est que Khashoggi, et tout ça, là, ça s'est fait en 30 minutes. Il est arrivé, il a été tout de suite, évidemment, arrêté, on l'a rentré dans une pièce, on l'a interrogé, torturé, on lui a coupé les doigts, un à un, pour ensuite le décapiter et le démembrer. Tout ça en présence du consul général d'Arabie Saoudite. Je rappelle également que parmi les quatre Saoudiens qui ont été identifiés, un fait partie de la garde rapprochée du grand prince héritier, et que M. Trump, lui, prétend qu'il se satisfait des explications données par l'Arabie Saoudite en disant « on n'a pas passé de commande ». Essentiellement, peut-être des gens qui ont dérapé, des gens qui font partie des services de sécurité. Mais quand vous partez d'Arabie Saoudite, un contingent de 15 personnes, et que parmi ces gens-là, vous retrouvez un médecin légiste, puis vous traînez une scie, disons que l'objectif est assez clair. Et ce qu'on lui disait au début de l'interrogatoire, c'était « vous allez vous taire, vous allez arrêter de critiquer le régime ». Et hier, le Washington Post a publié le dernier article de Jamal Khashoggi. Et en terminant, il faut que je vous raconte ça. On parlait qu'un avocat ce matin, Maître Quentin, qui est dans un dossier, une histoire de chicane de couple qui est complètement délirante. Je résume ça, ça se passe... au lac Kenogami. C'est un homme accusé de voies de fait. Et ce qu'on comprend, ça s'est passé lundi après-midi. L'homme est devenu, semble-t-il, en colère après que sa compagnie de carte de crédit ait refusé d'augmenter sa marge. Puis là, ça a dégénéré en chicane de couple. Sa conjointe lui a demandé de se calmer. Et le gars est passé, donc le mari à côté de sa femme, puis il l'a frappé à l'épaule, elle est tombée au sol. En se relevant, elle a mis les mains dans la livre de beurre et a étendu le contenu dans le visage de monsieur. Monsieur, furieux, est allé prendre sa douche. Quand il est revenu, il aurait projeté sa femme au sol, tenté de l'immobiliser. Il aurait pris ensuite un gallon d'huile d'olive et l'aurait déversé sur madame. Après quoi, il a pris la jambe et voulait l'amener à l'extérieur de la résidence. La femme s'est frappée la tête sur un échafaud. Quand elle est revenue, elle a vu le gallon d'huile et aurait pris la décision de verser la balance qui restait dans le coffre à outils de son conjoint. Puis lui, il est accusé de voies de fait. Maître Charles Quentin sera avec nous. C'est lui également qui a été impliqué dans une chicane de voisins à Chibcha. Ça a duré 3 ans de poursuite. Puis là, quand tu dis, là, deux voisins qui saillissent, finalement, après 2 jours de discussion, il y a eu une entente. Mais tu sais, 3 ans, là, puis tu peux pas passer, puis j'ai un mariage sur mon terrain, puis ça me prend une permission. Puis chaque petit détail doit être négocié à la cour. 6h23 minutes. La 13, Marc.